Ivan Noé, suite du chapitre 27. Cédric s'efforça, non sans peine, à saluer le fier baron, qui lui rendit sa politesse par une légère inclination de tête. « T'es pénitents, mon père, ont fait, il me semble, une longue confession. Tant mieux pour eux, puisque c'est la dernière qu'ils feront jamais. Les as-tu préparés à la mort ?»«
Je les ai trouvés, » dit Cédric en parlant français le mieux qu'il put, s'attendant à tout du moment qu'ils ont su entre les mains de qui ils étaient tombés.
« Comment donc, sire moine ? » dit Front de Bœuf. « Il me semble que ton discours sent terriblement le saxon. »«
J'ai été élevé au couvent de Saint-Witold de Burton, » répondit Cédric.
« Oui, » dit le baron, « il eût mieux valu pour toi que tu fusses normand. » Et pour moi aussi. Mais dans le besoin, on ne peut choisir ses messagers. Ce couvent de Saint-Witold de Burton est un nid de hibou qui vaut la peine d'être déniché, et le jour viendra bientôt où le froc ne protégera pas plus le saxon que la côte de maille.
Que la volonté de Dieu soit faite, dit Cédric d'une voix tremblante de colère, expression que Front de Bœuf imputa à la crainte.
Je vois, dit le baron, que tu penses déjà que nos hommes d'armes sont dans les réfectoires et dans les celliers, mais rends-moi un service de ton pieux ministère, et advienne que pourra aux autres. Toi, tu dormiras aussi sûrement dans ta cellule qu'un escargot dans sa maison protectrice.
« Donnez-moi vos ordres, » s'écria Cédric en comprimant son émotion.
« Suis-moi donc dans ce passage, » dit Front de Bœuf, « afin que je puisse te congédier par la poterne. »
Et, tout en précédant le prétendu moine, Front de Bœuf l'instruisit du rôle qu'il voulait lui faire jouer.
« Tu vois, sire moine, lui dit-il, ce troupeau de porcs saxons qui ont osé entourer mon château de Tonkilston. Dis-leur tout ce qui te plaira de la faiblesse de ce fort, et tout ce qui pourra les engager à rester sous ses murs pendant 24 heures. En attendant, porte cette missive.
Mais... « Doucement, sais-tu lire, sire moine ?»«
Pas le moins du monde, » répondit Cédric, « sauf dans mon bréviaire, dont je connais les caractères, parce que je sais par cœur le Saint-Service. Que Notre-Dame et Saint-Witold en soient loués. »«
Tu es un messager d'autant plus convenable pour mon dessein. Porte cette lettre au château de Philippe de Malvoisin. Dis-lui qu'elle vient de ma part. » Mais qu'elle a été écrite par le templier Brillant de Bois-Guilbert, et que je le prie de la faire passer à York, avec toute la célérité que le courrier pourra y mettre. Dis-lui qu'il ne redoute rien, qu'il nous trouvera sains et saufs derrière nos créneaux. Quelle honte d'être ainsi forcé de nous cacher devant cette horde de renégats, qui ont l'habitude de fuir à la vue de nos bannières et au piétinement de nos chevaux. Je te dis, moine, de trouver le moyen, par quelque tour de ta façon, de retenir ces coquins, où ils sont, jusqu'à ce que nos amis arrivent ici avec leurs lances. Ma vengeance s'est réveillée, et c'est un faucon qui ne se rendort que lorsqu'il est complètement repu.
« Par mon saint patron !» s'écria Cédric avec une énergie plus grande qu'il ne convenait à son caractère. « Et par tous les saints qui ont vécu et qui sont morts en Angleterre, vos ordres seront exécutés. » Pas un saxon ne s'éloignera de ces murs, si je puis les y retenir par mon savoir ou par mon influence.
« Ah !» s'écria Front de Bœuf, « tu changes de ton, sire moine, et tes paroles sont précises et hardies, comme si ton cœur se réjouissait du carnage de la troupe saxonne. Et cependant, tu es toi-même de la race de ces porcs. »
Cédric n'était pas un grand praticien dans l'art de la dissimulation, et en ce moment, il aurait beaucoup gagné s'il eût pu emprunter une idée à la féconde cervelle de Wamba. Mais la nécessité, selon l'ancien proverbe, aiguise l'imagination. Il marmotta quelques mots sous son capuchon pour dire que les hommes en question étaient des outlaws excommuniés à la fois par l'Église et par l'État.
« Par Dieu !» répondit Front de Bœuf, « tu as dit l'exacte vérité. J'avais oublié que ces drôles pouvaient détrousser un gros moine saxon tout aussi bien que s'il était né au sud de ce canal salé, là-bas.
n'est-ce pas, l'abbé de Saint-Yves qu'ils ont lié à un chêne et forcé de chanter la messe pendant qu'il raflait son argent et ses effets? Non, par Notre-Dame, cette plaisanterie a été faite par Gauthier de Middleton, un de nos compagnons d'armes. Mais c'était des Saxons qui ont dépouillé la chapelle de Saint-Bise de ses coupes, chandeliers et calices. N'est-il pas vrai?
C'était des hommes impies, répondit Cédric.
Sans doute, et ils ont bu le bon vin et l'ale qui était destiné à plus d'une de ces joyeuses veillées où vous prétendez être occupé de prières et de jeûnes. Moine, tu es obligé de venger un pareil sacrilège.
Je suis, à la vérité, contraint à la vengeance, murmura Cédric. Saint Witold connaît mon cœur.
Pendant ce temps, Front de Bœuf le conduisait vers la poterne. Ils traversèrent le pont sur une seule planche et gagnèrent une petite barbacane, ou défense extérieure, qui communiquait avec la campagne par une porte bien fortifiée. « Va-t'en donc, et si tu remplis fidèlement ma commission et que tu reviennes ici ensuite, tu y trouveras de la chair de Saxon, un meilleur marché que celle du porc chez les étaliers de Sheffield. Écoute, tu me fais l'effet d'un joyeux confesseur. Reviens ici après le combat. Tu auras autant de vin de Malvoisie à boire qu'il en faudrait pour noyer tout ton monastère. »
« Assurément, nous nous reverrons, » répondit Cédric.
« En attendant, prends ceci, » continua le Normand. Et il glissa un besan d'or dans la main de Cédric, puis ajouta « Rappelle-toi que si tu manques à ta parole, j'enlèverai ton capuchon et la peau qu'il couvre. »
« Et je te donnerai pleine permission de faire l'un et l'autre, » répondit Cédric en sortant de la poterne et s'avançant à grandes enjambées dans la plaine. « Si, lorsque nous nous retrouverons, je ne mérite pas davantage. »
Alors, se tournant vers le château, il jeta le besan d'or au baron et s'écria « Normand hypocrite, que ton argent périsse avec toi !» Front de Bœuf n'entendit pas ces paroles. Mais l'action lui fut suspecte. Archer, dit-il au garde placé sur le rempart, envoie-moi une flèche au travers du froc de ce moine. Mais attends, dit-il au moment où ce serviteur bandait son arc. Il faut nous fier à lui, puisque nous n'avons rien de mieux à faire. Je pense qu'il n'osera pas me trahir. Au pis-aller, je pourrai traiter avec ces chiens de Saxons, qui sont ici en sûreté dans leur chenil. Holà! Gilles le geôlier, qu'on amène devant moi Cédric de Rotherwood et l'autre Manant, son compagnon, je veux dire celui de Koningsburg, cet Athelstan là, ou bien comment le nomme-t-on? Leur nom seul emplisse la bouche d'un chevalier normand, et sente pour ainsi dire le lard. Qu'on me serve un gobelet de vin, comme disait le joyeux prince Jean, afin que je me rince la bouche. Portez-le dans l'arsenal et conduisez-y les prisonniers. Ces ordres furent exécutés, et en entrant dans cette salle gothique où se trouvaient suspendues bien des dépouilles, gagnées par sa propre valeur ou par celle de son père, il trouva un pot de vin sur la table massive de chêne et les deux Saxons captifs sous la garde de quatre de ses gens. Front de Bœuf but à longs traits, et ensuite il s'adressa aux prisonniers. La manière dont Wamba avait tiré son bonnet sur sa figure, le changement de costume, l'obscurité de la salle et la connaissance imparfaite qu'avait le baron des traits de Cédric, celui-ci évitait les voisins normands et sortait rarement de ses propres domaines, l'empêchèrent de découvrir que le plus important de ses captifs s'était échappé. « Vaillants Anglais !» s'écria Front de Bœuf. « Êtes-vous content de l'accueil qu'on vous a fait à Torquilstone ? Savez-vous encore ce que mérite votre surcédie et outrecuidance pour vous être moqué de la fête d'un prince de la maison d'Anjou? Avez-vous oublié comment vous avez reconnu l'hospitalité imméritée du loyal Jean? Par Dieu et par Saint-Denis, si vous ne payez pas une riche rançon, je vous suspendrai par les pieds aux barreaux de fer de ces fenêtres, jusqu'à ce que les milans et les corbeaux aient fait de vous des squelettes. Parlez, chien de Saxon! Que m'offrez-vous pour vos misérables vies? Que dites-vous, sire de Rotherwood?
Je n'offre pas une obole, moi, répondit le pauvre Wamba. Et pour ce qui concerne ma suspension par les pieds,
ma cervelle ayant été placée, dit-on, sans dessus-dessous depuis que je me coiffe du béguin, si on me renverse, cela la remettra peut-être à la place qui lui convient.
« Par Sainte-Geneviève !» s'écria Front de Bœuf. « Qui avons-nous ici ?»
Et d'un revers de la main, il enleva le bonnet de Cédric de la tête du bouffon. Et ouvrant son collet, il découvrit la marque fatale de la servitude, c'est-à-dire un collier d'argent autour de son cou.
« Gilles, Clément, chien de valet !» s'écria le Normand furieux. « Qui donc m'avez-vous amené ici ?»«
Je pense pouvoir vous le dire, » dit de Bracy qui venait d'entrer dans la salle. « C'est le bouffon de Cédric qui a livré un combat si viril à Isaac d'York sur une question de préséance. »
« Je déterminerai cette question pour l'une et l'autre, » dit Front de Bœuf. « Ils seront pendus à la même potence, à moins que son maître et ce port de Königsbourg ne veuillent bien racheter leur vie. Leur richesse est bien la moindre chose qu'ils puissent abandonner. Il faut qu'ils emmènent aussi avec eux les bandes qui assiègent le château, qu'ils renoncent à leurs privilèges prétendus et qu'ils vivent sous nos ordres comme des serfs et des vassaux. » Trop heureux si, dans l'air nouvelle qui va s'ouvrir, nous leur laissons la respiration. « Allez, » dit-il à deux de ses domestiques, « amenez-moi ici le vrai Cédric, et pour cette fois, j'excuserai d'autant plus votre méprise que vous n'avez fait que prendre un fou pour un Franklin saxon. »
« Oui, mais, » dit Wamba, « votre excellence chevaleresque va retrouver qu'il y a plus de fous que de Franklin parmi nous. »
« Que veut dire ce drôle ?»
demanda Front de Bœuf en regardant ses domestiques, qui, lentement et à contre-cœur, avouèrent que, si ce n'était pas la Cédric, ils ne savaient ce qu'il était devenu.
« De par tous les saints du paradis !» s'écria de Bracy. « Il se sera échappé sous les vêtements du moine !»« De par tous les diables d'enfer !» rugit Front de Bœuf. « C'était donc le port de Rotherwood que j'ai conduit à la poterne et congédié moi-même ? Et toi » continua-t-il en s'adressant à Wamba. « Toi dont la folie a su déjouer la sagesse d'idiot encore plus imbécile que toi, je te donnerai les ordres sacrés, je raserai ton crâne. Ici, qu'on lui arrache la peau de la tête et qu'on le lance ensuite par-dessus les créneaux. La plaisanterie est donc ton métier ? Ose maintenant faire le bouffon. »
« Vous agissez envers moi mieux que je n'osais espérer, sire chevalier !» dit en pleurnichant le pauvre Wamba, dont les habitudes bouffonnes étaient invincibles, même devant la perspective d'une mort immédiate. « En me donnant le bonnet rouge dont vous parlez, d'un simple moine, vous faites un cardinal !»«
Le pauvre diable !» dit de Bracy, « a résolu de mourir dans sa profession. Front de Bœuf, vous ne le tuerez pas. « Donnez-le-moi pour divertir mes francs compagnons. Qu'en dis-tu, drôle ? Veux-tu accepter le pardon et m'accompagner à la guerre ?»«
Oui, avec la permission de mon maître, » dit Wamba. « Car, voyez-vous cela, » ajouta-t-il en touchant son collier, « je ne puis le quitter sans son consentement. »«
Oh, une si normande aura bientôt coupé un collier saxon !» répondit de Bracy.
« Oui, noble chevalier !» dit Wamba. Et ainsi dit le proverbe. Si normande sur le chêne anglais, joue normand sur le cou anglais, cuillère normande dans le plat anglais. L'Angleterre régit suivant le caprice des Normands. Adieu le bonheur de l'Angleterre tant qu'elle ne sera pas débarrassée de ses quatre fléaux.
Tu es bien bon en vérité, de Bracy. S'écria Front de Bœuf, de rester à écouter le jargon d'un fou quand notre ruine se prépare. Ne comprends-tu pas que la manière dont nous avons voulu communiquer avec nos amis du dehors a été déjouée par ce même gentilhomme bigarré dont tu te déclares le protecteur ? À quoi pouvons-nous nous attendre maintenant, si ce n'est à un assaut immédiat ?
Au créneau alors, dit de Bracy. Quand m'as-tu jamais vu plus grave qu'au moment d'une bataille ? « Préviens le Templier, là-bas, et qu'il se batte seulement à moitié aussi bien pour sa vie qu'il l'a fait pour son ordre. Gagne-toi même les murailles. Moi, je vais faire un petit effort à ma manière, et je te promets que les outlaws saxons pourraient aussi bien tenter d'escalader le ciel que de prendre d'assaut le château de Torquilstone. Au surplus, si tu veux traiter avec les bandits,
Qu'en emploies-tu la médiation de ce digne Franklin qui paraît contempler avec tant de recueillement ton pot de vin ?
Tiens, continua-t-il en s'adressant à Athelstan et en lui présentant une coupe pleine de vin.
Lave ton gosier avec cette noble liqueur et prends des forces pour nous dire ce que tu veux faire pour obtenir ta liberté.
Ce qu'un homme de race, répondit Athelstan, peut faire sans déshonneur. Renvoyez-moi libre avec mes compagnons, et je paierai une rançon de 1000 marks.
Et nous garantis-tu la retraite de cette lie de gens qui bourdonnent autour du château, contrairement à la paix de Dieu et du roi ?
Demanda Front de Bœuf. Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour les y déterminer, et je ne doute pas que mon père Cédric ne fasse son possible pour me venir en aide.
Nous voilà donc d'accord, dit Front de Bœuf. Toi et les tiens, vous serez remis en liberté, et la paix sera rétablie de part et d'autre, moyennant le paiement de 1000 marks d'argent.
C'est une rançon légère, Saxon, et tu dois te montrer satisfait de notre modération.
Mais observe bien que le traité ne comprend pas le juif Isaac.
Ni la fille du juif Isaac,
s'écria le templier qui survint en ce moment.
Ils n'appartiennent ni l'un ni l'autre à la troupe de ce Saxon, ajouta Front de Bœuf.
Je serais indigne d'être appelé du nom de chrétien, répliqua Athelstan, s'ils en faisaient partie.
Disposez de ces mécréants à votre bon plaisir.
La rançon ne comprend pas non plus Lady Rowena, ajouta de Bracy.
Il ne sera pas dit qu'on m'enlèvera une si belle prise sans me la disputer l'épée à la main.
Notre traité ne concerne pas non plus ce misérable bouffon, reprit Front de Bœuf.
Je prétends faire un exemple qui frappe de terreur chaque drôle qui voudrait convertir en badinage la chose sérieuse.
Lady Rowena, répondit Athelstan avec la plus grande fermeté, est ma fiancée, et je me laisserai écarteler par des chevaux sauvages avant de consentir à me séparer d'elle. L'esclave Wamba a aujourd'hui sauvé la vie de mon père Cédric, et je perdrai la mienne plutôt que de souffrir qu'on fasse tomber un cheveu de sa tête.
Lady Rowena, ta fiancée ? La fiancée d'un vassal tel que toi ?
S'écria de Bracy.
Saxon, tu rêves que les jours des 7 royaumes sont revenus. Apprends que les princes de la maison d'Anjou n'accordent pas leurs pupilles à des hommes d'un lignage tel que le tien.
Mon lignage, fier Normand, répliqua Athelstan, sort d'une source plus pure et plus ancienne que celle d'un mendiant français qui gagne sa vie en vendant le sang des voleurs qu'il a réunis sous son misérable étendard. Mes ancêtres étaient des rois forts dans la guerre et sages dans le conseil. Ils nourrissaient dans leur palais plus de 100 de sujets loyaux que tu ne comptes d'individus à tes gages. Des rois dont la gloire a été chantée par les ménestrels, des rois cités dans le Wittenengemot, des rois dont les ossements ont été ensevelis sous les bénédictions des saints et au-dessus des tombeaux de qui de magnifiques églises se sont élevées.
Qu'as-tu à répondre, de Bracy ?
Dit Front de Bœuf, très satisfait de la riposte que son compagnon venait de recevoir.
Le Saxon t'a touché bel et bien.
Bel et bien, comme peut frapper un captif, dit de Bracy avec une feinte insouciance. Car celui à qui l'on a lié les mains doit avoir la langue libre, mais ta facilité de réplique, ajouta-t-il en s'adressant à Athelstan, n'obtiendra pas la liberté de Lady Rowena.
Athelstan, qui avait déjà fait un discours plus long qu'il n'avait l'habitude d'en faire sur un sujet si intéressant qu'il fût, ne fit pas de réponse à cette dernière insulte. D'ailleurs, la conversation fut interrompue par l'arrivée d'un valet qui annonça qu'un moine demandait à être admis à la poterne au nom de Saint-Benet.
« Au nom de Saint-Benet, le prince de ces vagabonds ?» s'écria Front de Bœuf.
« Est-ce un véritable moine qui nous arrive cette fois ou un second imposteur ? Fouillez-le, esclave, car si vous vous laissez tromper encore une fois, je vous ferai arracher les yeux de leur orbite et mettre à leur place des charbons ardents. »
« Je supporterai toute la rigueur de votre colère, monseigneur, répondit Gilles, si celui-ci n'est pas un véritable tonsuré. Votre écuyer Jocelyne, qui le connaît bien, vous dira que c'est le frère Ambroise, moine au service du prieur de Jorvaux. »
Qu'on l'introduise, dit Front de Bœuf. Il est très probable qu'il nous apporte des nouvelles de son joyeux maître.
Il faut que le diable soit en vacances et que les prêtres soient relevés de leurs devoirs, puisqu'ils rôdent ainsi par le pays.
Qu'on éloigne les prisonniers. Et quant à toi, Saxon, réfléchis à ce que tu viens d'entendre.
Je demande, répondit Athelstan, à être honorablement traité dans ma prison, et à y recevoir les soins et les attentions qui conviennent à mon rang et à un homme qui est en pourparlers pour sa rançon. En outre, je somme celui qui se considère comme le plus brave d'entre vous de me rendre raison de l'attentat qu'on mit contre ma liberté. Ce défi t'a déjà été apporté par ton écuyer. Tu l'as reçu et tu dois y répondre. Voici mon gant.
« Je ne réponds pas au cartel de mon prisonnier, » repartit Front de Bœuf, « et tu n'y répondras pas non plus, Maurice de Brassy. »«
Gilles, » continua-t-il, « suspend le gant de Franklin à un de ses bois de serre. Il y restera jusqu'à ce que son maître ait reconquis sa liberté. Si alors il ose le réclamer, ou s'il soutient qu'il a été fait illégalement mon prisonnier, par le baudrier de Saint-Christophe, il aura à parler à un homme qui n'a jamais refusé de se mesurer avec son ennemi, soit à pied, soit à cheval, seul ou à la tête de ses vassaux. » On emmena les prisonniers saxons, et au même moment on introduisit le frère Ambroise, qui paraissait en proie à une grande agitation.
« Voici le vrai Pax Vobiscum, » dit Wamba en passant à côté du révérend frère.
Les autres n'en étaient que la contrefaçon.
« Sainte mère !» s'écria le moine en s'adressant aux chevaliers assemblés. « Je suis enfin en sûreté dans une société chrétienne. »«
Oui, tu es en sûreté, » répliqua de Brassy. « Et quant aux chrétiens devant lesquels tu te trouves, voici le redoutable baron Réginald Front de Bœuf, qui a les juifs en horreur, et le bon chevalier du temple, Brillant de Bois-Guilbert, dont le métier est de tuer des sarrasins. Ce sont là de bonnes preuves de chrétienté, et je n'en connais pas de meilleures à offrir.
Vous êtes les amis et les alliés de notre révérend père en Dieu Aymer, prière de Jorvaux, dit le moine, sans remarquer le ton de la réponse de De Brassy. Vous lui devez secours et protection, par votre foi de chevalier, par votre piété chrétienne. Car que dit le grand saint Augustin dans son traité De Civita Te Dei ?
Que dit le diable ? Interrompit Front de Bœuf. Ou plutôt, que veux-tu, sire prêtre ? Nous n'avons guère le temps d'écouter les citations tirées des saints pères.
Sancta Maria ! S'écria le père Ambroise. Comme ils sont prompts à la colère, ces laïcs profanes ! Mais je dois vous faire connaître, brave chevalier, que certains scélérats, assassins, sans égard pour la sainteté de Dieu et sans respect pour son Église et sans vénération pour la bulle du Saint-Siège, si quis ou adente diabolo.
« Sire moine, s'écria le Templier, nous savons tout cela, ou nous le devinons. Dis-nous simplement si ton maître le prieur a été fait prisonnier et entre quelles mains il se trouve.
« Assurément, dit Ambroise. Il est entre les mains des hommes de Bélial, qui infestent ces bois et qui méprisent le texte sacré.
Ne touchez point à loin du Seigneur, et ne faites pas de mal à mes prophètes. »
Voici un nouvel argument pour nos épées, messire, dit Front de Bœuf en se tournant vers ses compagnons. Ainsi, au lieu de nous envoyer quelques secours, le prieur de Jorvaux nous en demande. Un homme est bien secondé par ces paresseux prélats, lorsqu'ils se trouvent eux-mêmes dans le danger. Mais parle, moine, dis-nous une bonne fois ce que ton maître attend de nous.
Sous votre bon plaisir, monseigneur, on a mis la main sur sa révérence, notre pieux prieur, en dépit de la bulle que j'ai déjà citée. Et les hommes de Bélial, ayant pillé ses coffres et ses sacs, l'ont dépouillé de 200 marks d'or pur et raffiné. Ils demandent, en outre, une forte somme avant de le laisser sortir de leurs mains infidèles. C'est pourquoi le révérend Père en Dieu vous prie, comme ses meilleurs amis, de venir à son aide, soit en payant la rançon qu'on exige de lui, soit par la voie des armes, à votre discrétion.
« Que le diable emporte le prieur !» s'écria Front de Bœuf. « Il faut que ces libations du matin aient été fréquentes. Où ton maître a-t-il vu qu'un baron normand ouvrit sa bourse pour secourir un prélat dont les sacs sont 10 fois plus lourds que ne peuvent l'être les siens ? Et comment pourrions-nous le délivrer par la force, nous qui sommes inférieurs en nombre et qui à chaque instant attendons un assaut ?»«
Et voilà justement ce que j'allais vous dire, » répondit le moine. « Mais vous êtes trop prompte et ne me donnez pas le temps.
Que Dieu ait pitié de moi. Je suis vieux et la vue de ces outlaws suffit pour troubler le cerveau d'un vieillard. Néanmoins, il est vrai qu'ils forment un camp et qu'ils élèvent un retranchement vis-à-vis des murs de ce château.
« Au rempart !» s'écria de Bracy. « Et voyons ce que ces rustres font au dehors !»
En disant ces mots, il ouvrit une fenêtre grillée qui donnait sur une espèce de plateforme ou balcon saillant, et de là, il cria à ceux qui étaient dans la salle.
« Par Saint-Denis, les nouvelles du vieux moine sont vraies. Ils avancent des mantelets et des palisses, et les archers se groupent sur la lisière du bois comme un sombre nuage avant la tempête. »
Réginald Front de Bœuf, ayant regardé à son tour dans la campagne, saisit aussitôt son corps de chasse, et après en avoir tiré un son aigu et prolongé, il ordonna à ses hommes de se rendre à leur poste sur les remparts.
« De Bracy, veille du côté de l'Orient, où les murailles ont le moins d'élévation. Noble Bois-Guilbert, ton métier t'a appris l'art de l'attaque et de la défense. Surveille le côté occidental. Quant à moi, je vais me rendre à la tourelle. Toutefois, ne bornez pas vos mouvements à un seul endroit, mes nobles amis. Aujourd'hui, il nous faut être partout et nous multiplier autant que possible, de manière à porter par notre présence secours et confiance partout où l'attaque sera la plus vive. Nous avons peu de bras, mais nous pourrons suppléer à notre petit nombre par l'activité et par le courage, puisque nous n'avons affaire qu'à des manants et à des vagabonds.
« Mais, noble chevalier !» s'écria le père Ambroise.
Au milieu du fracas et de la confusion occasionnée par les préparatifs de la défense.
N'y a-t-il personne d'entre vous qui veuille écouter le message du révérend père en Dieu Heimer, prieur de Jorvaux? Je vous en prie, écoutez-moi, noble sire Réginald.
Adresse tes prières au ciel, répondit le farouche Normand, car nous qui sommes sur terre, nous n'avons pas le temps de les écouter.
Hola, Anselme! « Et soin que la poix et l'huile bouillante soient prêtes à être versées sur la tête de ces audacieux. Veille aussi à ce que les arbalétriers ne manquent pas de viretons. Qu'on arbore ma bannière portant la tête du vieux taureau. Ces bandits verront bientôt à qui ils ont affaire aujourd'hui. »«
Mais, noble sire, » continua le moine, persévérant dans ses efforts pour attirer l'attention de Réginald.
« Songez à mon vœu d'obéissance et laissez-moi m'acquitter de la mission de mon supérieur. »«
Emmenez ce bavard !» dit Front de Bœuf. « Enfermez-le dans la chapelle. Il dira son rosaire jusqu'à la fin de cette échauffourée. Ce sera une chose nouvelle pour les saints de Torquilstone d'entendre des aves et des patères. Ils ne seront pas vus à pareille fête, je crois, depuis qu'ils sont sortis de leur bloc de pierre. »
« Ne blasphème pas ces respectables saints, sire Réginald, » dit Bracy. « Nous aurons aujourd'hui besoin de leur aide pour venir à bout de cette canaille. »«
Je n'attends pas de secours de leur part, » répondit Front de Bœuf, « à moins que nous ne les lancions du haut des créneaux sur la tête des bandits. Il y a là-bas un vieux Saint-Christophe hors de service qui suffirait à lui seul pour écraser toute une compagnie. »
Pendant cette conversation, le templier avait suivi de l'œil les dispositions des assiégeants avec plus d'attention que le brutal Front de Bœuf et que son étourdi compagnon.
« Par la foi de mon ordre » s'écria-t-il. « Ces hommes font leurs apprêts avec plus de discipline qu'on aurait pu en attendre de leur part, quelle que soit la source d'où elles leur viennent. Voyez avec quelle adresse ils profitent de chaque abri que leur offrent les armes et les buissons pour éviter les coups de nos albalétriers. » Je ne vois parmi eux ni bannière ni étendard,
et cependant je gagerais ma chaîne d'or qu'ils sont conduits par quelque noble chevalier ou gentilhomme habile dans la tactique de la guerre.
« Je l'entrevois !» s'écria de Bracy. « Je vois flotter la crête du casque d'un chevalier et reluire son armure. Regardez cet homme de taille élevée en côte de maille noire qui s'occupe à disposer là-bas cette troupe de canailles diéomènes. Par Saint-Denis, je crois que c'est celui que nous avons surnommé le noir fainéant et qui t'a désarçonné, Front de Bœuf, dans le tournoi d'Asby. »
« Tant mieux !» répliqua Front de Bœuf. « Il vient sans doute pour me donner ma revanche. Il faut que ce soit quelque misérable de Balieu, pour n'avoir pas osé réclamer le prix du tournoi que le hasard lui avait fait obtenir. Je l'aurais vainement cherché là où les chevaliers et les nobles rencontrent leurs adversaires, et je suis vraiment charmé qu'il se soit montré au milieu de ces villes yéomènes. »
Les signes manifestes de l'approche immédiate de l'ennemi coupèrent court à la conversation. Les chevaliers se rendirent chacun à leur poste, à la tête du petit nombre de combattants qu'ils avaient pu réunir, nombre qui n'était pas, à beaucoup près, suffisant pour défendre toute l'étendue des murailles. Ils n'en attendirent pas moins, avec une froide résolution, l'assaut dont ils étaient menacés.
Chapitre 28. Il faut que notre histoire rétrograde de quelques pages, afin d'instruire le lecteur de certains faits importants qui le mettront à même de comprendre la suite de ce véridique récit. Sa propre intelligence lui a sans doute fait soupçonner que lorsqu'Ivanhoé, tombé dans la lice, semblait abandonné de tout le monde, ce furent les importunités de Rebecca qui décidèrent son père à faire transporter ce jeune et vaillant guerrier dans la maison que les Juifs habitaient provisoirement dans le faubourg d'Asby. Il n'eût pas été difficile, en toute autre occasion, de persuader à Isaac de faire cette bonne action, car son cœur était celui d'un homme doux et humain. Mais il avait aussi les préjugés et les scrupules de sa race persécutée, et c'était là ce qu'il fallait vaincre.
« Bienheureux Abraham ! » s'écria-t-il. « C'est un brave jeune homme, et mon cœur saigne de voir le sang couler sur son riche hoqueton brodé et sur son corselet d'étoffes précieuses. Mais l'emporter dans notre maison, ma fille, y as-tu bien réfléchi? C'est un chrétien, et d'après la loi de Moïse, nous ne devons trafiquer avec l'étranger et les gentils que pour les profits de notre commerce.
« Ne parlez pas ainsi, mon cher père, » répliqua Rebecca. Nous ne devons pas, à la vérité, nous mêler avec eux dans les banquets et dans les fêtes. Mais quand il est blessé et malheureux, le gentil devient le frère du juif.
Je voudrais savoir ce que le rabbin Jacob ben Tudela en dirait, répondit Isaac.
Néanmoins, le brave jeune homme ne doit pas perdre tout son sang, que Seth et Ruben le transportent donc à Asby.
Non, qu'on le dépose dans ma litière, dit Rebecca. Je monterai sur l'un des palefrois.
Ce serait l'exposer aux regards indiscrets de ces chiens d'Ismaël et des dons, dit à voix basse Isaac, en lançant un regard de défiance sur la foule de chevaliers et d'écuyers qui les environnaient. Mais Rebecca était déjà occupée à mettre à exécution son projet charitable sans écouter les paroles de son père. Enfin Isaac, saisissant la manche de son manteau, s'écria de nouveau d'une voix troublée.
« Par la barbe d'Aaron, qu'arrivera-t-il si ce jeune homme meurt? S'il périt entre nos mains, ne serons-nous pas accusés de sa mort et mis en lambeaux par la multitude ?»«
Il ne mourra pas, mon père !» s'écria Rebecca en se dégageant doucement de l'étreinte d'Isaac. « Il ne mourra pas, à moins que nous ne l'abandonnions !» Et si nous le faisions, nous serions alors vraiment responsables de son sang envers Dieu et les hommes.
Non, dit Isaac, lâchant sa fille, il me fait autant de peine de voir couler son sang que si chaque goutte était un besan d'or tombé de ma propre bourse. Je n'ignore pas d'ailleurs que les leçons de Myriam, fille du rabbin Manassès de Byzance, dont l'âme est au ciel, t'ont rendu habile dans l'art de guérir, et que tu connais les vertus des herbes et la force des élixirs. Par conséquent, fais ce que ton esprit te conseille. Tu es une bonne fille, une bénédiction. une couronne de gloire et un cantique de réjouissance pour moi, pour ma maison et pour le peuple de mes pères. » Toutefois, les inquiétudes d'Isaac n'étaient pas mal fondées. La généreuse bienveillance et la reconnaissance de sa fille l'exposèrent, à son retour à Asby, au regard profane de Brian de Bois-Guilbert. Le templier passa et repassa plusieurs fois à côté d'eux sur la route, fixant son regard hardi et ardent sur la belle juive, et nous avons déjà vu les conséquences de l'admiration causée par ses charmes, quand un accident la jeta au pouvoir de ce voluptueux sans principe. Rebecca ne perdit pas de temps pour faire transporter le malade dans leur demeure provisoire, et se mit à examiner et à bander les blessures de ses propres mains. Les jeunes lecteurs de romances et de ballades romantiques se rappelleront sans peine que, dans ces siècles obscurs, comme on les appelle, les femmes étaient initiées au mystère de la chirurgie, et que souvent le vaillant chevalier confiait le soin de ses blessures à celle dont les yeux avaient encore plus profondément blessé son cœur. Mais les Juifs des deux sexes possédaient et pratiquaient la science médicale dans toutes ses branches, et les monarques et les puissants barons du temps s'abandonnaient fréquemment aux soins de quelques personnes expérimentées de cette race maudite lorsqu'ils étaient blessés ou malades. Le secours des médecins juifs était recherché avec empressement, bien qu'il existât parmi les chrétiens un soupçon général que les rabbins juifs étaient profondément versés dans les sciences occultes, et surtout dans l'art kabbalistique, qui tirait son nom et son origine des études des sages d'Israël. De leur côté, les rabbins ne désavouaient pas non plus cette connaissance des sciences surnaturelles, qui n'ajoutait rien à la haine qu'on portait à leur nation, tandis qu'elle avait pour effet de diminuer le mépris qui se mêlait à cette malveillance. Un magicien juif était peut-être aussi abhorré qu'un usurier juif, mais il ne pouvait être méprisé au même degré. Il est encore probable, quand on énumère les cures surprenantes qu'ils ont, dit-on, opérées, que les Juifs possédaient quelques secrets dans l'art de guérir qui leur était particulier, et que, avec l'esprit exclusif qui provenait de leur condition, ils avaient grand soin de cacher aux chrétiens parmi lesquels ils vivaient. La belle Rebecca avait été soigneusement élevée dans toutes les connaissances qui convenaient à sa tribu, et son esprit actif et sagace les avait retenus, médités et étendus au-delà de ce qu'on aurait pu attendre de son âge, de son sexe et même du siècle où elle vivait. Elle tenait ses connaissances dans l'art de guérir d'une vieille juive, Myriam, fille de l'un des plus célèbres docteurs israélites, laquelle aimait Rebecca comme son propre enfant, et qui, à ce qu'on croyait, lui avait communiqué des secrets qu'elle tenait elle-même de son savant père. Il est vrai que le sort de Myriam avait été d'être sacrifiée au fanatisme de l'époque, mais ses secrets lui avaient survécu dans son habile pupille. Rebecca, également distinguée par ses connaissances et par sa beauté, était universellement révérée et admirée de sa tribu, qui la regardait presque comme une de ces femmes élues dont parle l'Écriture. Son père lui-même, par un respect pour ses talents qui se mêlaient involontairement à son affection sans bornes, laissait à la jeune fille plus de liberté que n'en accordaient habituellement aux personnes de son sexe les mœurs de son peuple. Il était, ainsi que nous venons de le voir, fréquemment guidé par l'opinion de sa fille, qu'il suivait même de préférence à la sienne. Lorsqu'Ivanhoé fut transporté à l'habitation d'Isaac, il était encore évanoui, à cause de la grande perte de sang qu'il avait subie pendant sa lutte dans la lice. Rebecca examina ses blessures, et lui ayant appliqué des remèdes salutaires prescrits par son art, elle dit à son père que si on pouvait arrêter la fièvre, qu'elle redoutait fort peu vu la perte de sang, et si le baume de Myriam conservait sa vertu, il n'y aurait rien à craindre pour la vie de son hôte, qui serait en état de partir avec eux pour York le jour suivant. Isaac parut un peu contrarié de cette nouvelle. Sa charité aurait bien désiré s'arrêter à Asby, où il aurait voulu laisser le chrétien blessé, pour qu'on le soignât dans la maison qu'il habitait,
en assurant l'Israélite à qui elle appartenait que toutes les dépenses nécessaires lui seraient religieusement remboursées. Mais Rebecca opposa à ce plan plus d'une raison. Nous n'en mentionnerons que deux qui furent d'un grand poids auprès d'Isaac. La première, c'est qu'elle ne voulait d'aucune manière confier la fiole de baume précieux aux mains d'une autre personne, fût-ce même à une personne de sa propre tribu, de peur que le précieux secret ne fût découvert. L'autre, c'est que ce chevalier blessé, Wilfrid d'Ivanhoé, était un favori de Richard Cœur de Lion, et que, dans le cas où le monarque reviendrait, Isaac, qui avait fourni à son frère Jean le trésor dont il avait eu besoin pour exécuter ses desseins de rébellion, aurait grand besoin d'un protecteur puissant auprès de Richard. « Tout cela est bien vrai, Rebecca, » dit Isaac, cédant à la force des arguments. « Ce serait offenser le ciel que de trahir les secrets de l'honorable Myriam, car les biens que le ciel nous donne ne doivent pas être prodigués sans mesure aux autres, que ce soit des pièces d'or ou des shekels d'argent, ou les secrets mystérieux d'un savant médecin. Assurément, il faut les conserver à ceux à qui la Providence a daigné les transmettre. Et quant à celui que les Nazaréens d'Angleterre appellent Richard Cœur de Lion, il vaudrait certes mieux pour moi que je tombasse entre les griffes d'un lion furieux dit Dumé qu'entre les mains de ce Richard, pour peu qu'il ait connaissance de mes trafics avec son frère. C'est pourquoi je prête l'oreille à ton conseil, et ce jeune homme nous accompagnera à York. Notre foyer sera le sien jusqu'à ce que ses blessures soient guéries. Et si l'homme au cœur de lion revient dans ce pays, ainsi que l'annonce la rumeur publique, alors ce Wilfrid d'Ivanhoé sera pour moi comme un mur de défense lorsque le courroux du roi sévira contre son frère. Et s'il ne revient pas, ce même Wilfrid pourra néanmoins nous rembourser nos frais quand il aura gagné des trésors par la force de sa lance et de son épée, ainsi qu'il l'a fait hier et aujourd'hui. Car le jeune homme est bon, il est exact dans ses échéances, et il restitue ce qu'il emprunte. Il secourt aussi l'Israélite, même l'enfant de la maison de mon père, lorsque celui-ci est entouré de bandits audacieux et des fils de Bélial. » Ce ne fut que vers la fin de la soirée qu'Ivanhoé reprit ses sens. Il se réveilla d'un sommeil agité et entrecoupé par les impressions confuses qui accompagnent toujours un long évanouissement. Il ne put pendant quelque temps se rappeler exactement les circonstances qui avaient précédé sa chute dans la lice, où s'expliquait la chaîne des événements dans lesquels il s'était trouvé engagé la veille. Aux souffrances que lui causaient ses blessures se mêlait le souvenir de coups donnés et reçus, de coursiers lancés les uns contre les autres, tantôt renversés, tantôt renversants, de cris, de cliquetis d'armes, et de tout le tumulte assourdissant d'une bataille confuse. Il fit avec succès un effort pour ouvrir le rideau de son lit, effort que sa blessure rendait douloureux. À sa grande surprise, il se trouva dans une salle magnifiquement meublée, mais où, au lieu de chaises, il y avait des coussins. Grâce à mille autres détails, les habitudes de la vie orientale dominaient tellement dans cette chambre qu'il commença à se demander s'il n'avait pas été, pendant son sommeil, transporté une seconde fois sur la terre de Palestine. Ce doute devint presque une certitude lorsque, la tapisserie ayant été soulevée, une forme féminine, richement vêtue d'un costume qui participait plus du goût oriental que de celui de l'Europe, se glissa par la porte, suivie d'un domestique nègre. Au moment où le chevalier blessé allait s'adresser à cette belle apparition, elle lui imposa silence en mettant son doigt sur ses lèvres vermeilles. Tandis que le serviteur, s'approchant de lui, se mettait à découvrir le côté d'Ivanhoé, la belle juive s'assura que le bandage était à sa place et que la blessure allait bien. Elle remplit cet office avec une simplicité gracieuse et une dignité modeste qui, même autant les plus civilisés, aurait pu enlever à cette tâche tout ce qu'elle avait de répugnant pour la délicatesse d'une femme. L'idée d'une personne si jeune et si belle, occupée à soigner un malade ou à panser la blessure d'une personne d'un sexe différent, disparut pour faire place à celle d'un être bienveillant, dispensant les secours pour soulager la douleur et détourner le coup de la mort. Rebecca donna quelques courtes instructions en langue hébraïque au vieux serviteur, et celui-ci, qui l'avait fréquemment assisté en pareille circonstance, lui obéit sans répliquer. Les accents d'une langue inconnue, quelque discordants qu'ils puissent paraître, produisaient dans la bouche de la belle Rebecca l'effet romanesque et délicieux que l'imagination attribue au charme prononcé par quelque fée bienfaisante. Ils étaient, à la vérité, inintelligibles à l'oreille, mais ils touchaient et subjuguaient le cœur par la douceur de la prononciation et les regards bienveillants qui les accompagnaient. Sans essayer de faire aucune question, Ivanhoé les laissa silencieusement prendre les mesures qu'il jugeait convenables pour assurer son rétablissement. Et ce ne fut que lorsqu'ils eurent terminé et que la douce vision fut sur le point de disparaître qu'il céda enfin à sa curiosité. « Douce jeune fille, » dit-il en arabe, car ses voyages en Orient lui avaient rendu cette langue familière, et il pensait que cette charmante femme, ornée du turban et du caftan, serait plus à même de comprendre cet idiome que tout autre. « Je vous en prie, douce damoiselle, que votre courtoisie... » Mais il fut interrompu par son aimable médecin, et un sourire à peine réprimé dessina deux fossettes sur un visage dont l'expression habituelle était celle de la mélancolie et de la contemplation. « Je suis anglaise, messire chevalier, et je parle la langue anglaise, bien que mon costume et ma race appartiennent à un autre climat. »« Noble demoiselle, » reprit de nouveau le chevalier Ivanhoé, et une seconde fois Rebecca se hâta de l'interrompre. « Ne me donnez pas, sire chevalier, » dit-elle, « l'épithète de noble. Il est bon que vous sachiez tout de suite que votre servante est une pauvre juive, la fille de cet Isaac d'York, pour lequel vous vous êtes tout récemment montré un bon et indulgent seigneur. Il est de son devoir et de ceux de sa maison de vous rendre les soins assidus que réclame impérieusement votre état actuel. » Je ne sais si la belle Rowena eût été très satisfaite de l'espèce d'émotion avec laquelle son chevalier dévoué avait jusqu'alors contemplé les beaux traits, la taille svelte et les yeux brillants de l'aimable Rebecca. Yeux dont l'éclat était ombragé et, pour ainsi dire, adouci par une bordure de cils longs et soyeux, et qu'un ménestrel lui comparait à l'étoile du soir, lançant ses rayons à travers un bocage de jasmin. Mais Ivanhoé était trop bon chrétien pour conserver des sentiments de cette nature envers une juive. Rebecca avait prévu ce revirement, et c'est dans cette intention qu'elle s'était hâtée de lui faire connaître le nom et la caste de son père. Cependant, car la belle et sage fille d'Isaac n'était pas exempte de toute faiblesse féminine, elle ne put s'empêcher de soupirer intérieurement quand le regard d'admiration respectueuse, mêlé d'une teinte de tendresse avec lequel jusqu'ici Ivanhoé avait contemplé sa bienfaitrice inconnue, eut fait brusquement place à des manières froides, calmes et recueillies, et qui ne trahissaient que cette reconnaissance que mérite un service rendu par une personne d'une classe inférieure. Ce n'est pas que le premier regard d'Ivanhoé eût exprimé plus que cet hommage général que la jeunesse rend toujours à la beauté. Cependant, il était mortifiant pour cette jeune fille, qui n'ignorait certainement point ses titres à cet hommage, de voir qu'un seul mot avait suffi pour faire redescendre, comme par un charme, la pauvre Rebecca dans une classe dégradée, où ce respect ne pouvait honorablement lui être rendu. Mais, dans la douceur et la candeur de son caractère, Rebecca ne fit pas un crime à Ivanhoé de partager les préjugés de son siècle et de sa religion. Au contraire, la belle juive, bien qu'elle sût que son malade la regardait maintenant comme une personne réprouvée, avec laquelle il était défendu d'avoir aucune relation, sauf les plus indispensables, ne cessa pas d'accorder à son malade les mêmes attentions patientes et dévouées. Elle l'informa de la nécessité où il se trouvait de se rendre à York, et de la résolution de son père de l'y transporter et de le soigner dans sa propre maison jusqu'à ce que sa santé fût rétablie. Ivanhoé montra pour ce projet une grande répugnance, qu'il fondait sur son désir de ne point occasionner d'autres embarras à ses bienfaiteurs.
« N'y a-t-il pas, dit-il, à Asby ou dans ses environs, quelques Franklins saxons ou bien quelques fermiers opulents qui se chargeraient de recevoir chez lui un compatriote blessé et de le garder jusqu'au moment où il pourrait reprendre ses armes ? N'y a-t-il pas de couvent de fondation saxonne où l'on pourrait me recevoir ? Ou bien ne pourrait-on me transporter jusqu'à Burton, où je suis sûr de trouver l'hospitalité chez Waterhoff, abbé de Saint-Witold, dont je suis le parent ?»«
Le plus misérable abri, s'écria Rebecca avec un sourire mélancolique, serait indubitablement plus convenable pour vous que la demeure d'un juif méprisé. Cependant, messire chevalier, à moins que vous ne vouliez congédier votre médecin, vous ne pouvez changer de logement. Notre peuple, vous le savez, sait guérir les blessures, bien que ne les infligeant pas. Et dans notre famille, surtout, il y a des secrets qui nous ont été transmis depuis les jours de Salomon et dont vous ressentez déjà les heureux effets. Aucun Nazaréen, je vous en demande pardon, sire chevalier, aucun médecin chrétien entre les quatre mers de la Bretagne ne pourrait vous mettre à même de revêtir votre corselet d'ici à un mois.
Et combien de temps te faut-il à toi pour me mettre en état de le porter ?
Demanda Ivanhoé d'un ton d'impatience. 8 jours, si vous daignez être patient et vous conformez à mes instructions, répliqua Rebecca.
Par Notre-Dame ! S'écria Wilfrid.
Et qu'elle me pardonne de la nommer en ce lieu. Ce n'est pas le moment pour moi, ni pour un vrai chevalier, d'être alité. Et si tu accomplis ta promesse, jeune fille, je te donnerai mon casque plein de couronnes, de quelque manière que je les obtienne.
J'accomplirai ma promesse, répondit Rebecca, et le 8e jour tu endosseras ton armure, et si tu veux seulement m'accorder une grâce, au lieu de l'argent que tu me promets.
Si c'est en mon pouvoir, et si c'est une chose qu'un chevalier, un vrai chrétien, puisse accorder à une personne de ta religion, répondit Ivanhoé, je t'accorderai cette grâce avec plaisir et reconnaissance.
Eh bien, poursuivit Rebecca, c'est de croire dorénavant qu'un juif peut rendre de bons services à un chrétien sans exiger d'autres récompenses que la bénédiction du Père Céleste qui a fait le juif et le gentil.
Ce serait un péché d'en douter, reprit Ivanhoé, et je m'en repose entièrement sur ton adresse, sans autre scrupule et sans autre interrogation, fermement convaincu que, grâce à ta science, je serai en état de porter mes armes dans 8 jours. Et maintenant, mon aimable médecin, dis-moi les nouvelles du dehors. Qu'y a-t-il de nouveau chez le noble Saxon Cédric et dans sa maison? Que sait-on de la belle lady?
Il s'interrompit, comme s'il ne pouvait pas prononcer le nom de Rowena dans la maison d'un juif.
« Je veux dire, de celle qui fut nommée reine du tournoi. »
« Et qui fut choisie par vous, sire chevalier, pour exercer cette dignité, choix qui fut admiré autant que votre valeur, » reprit Rebecca. Le sang qu'Ivanhoé avait perdu empêcha une légère rougeur de colorer ses joues, car il sentait qu'il avait imprudemment trahi le profond intérêt qu'il portait à Rowena par ses maladroits efforts pour le cacher.
« Ce n'est pas tant d'elle que je voulais parler, dit-il, que du prince Jean, et je désirerais avoir des nouvelles de mon fidèle écuyer. Pourquoi n'est-il pas ici à me veiller ?
Permettez-moi d'user de mon autorité de médecin, répondit Rebecca, pour vous enjoindre de garder le silence et d'éviter les réflexions émouvantes, pendant que je vous informerai de ce que vous désirez savoir. Le prince Jean a suspendu le tournoi, et il est parti en toute hâte pour York, avec les nobles, les chevaliers et les prélats de son parti, après avoir réuni toutes les sommes qu'ils ont pu arracher, par de bons ou de mauvais moyens, à ceux que l'on citait comme les gens riches du pays. On dit qu'il se propose de mettre sur sa tête la couronne de son frère.
« Ce ne sera pas, du moins sans qu'on rompe une lance pour sa défense, » dit Ivanhoé en se soulevant sur sa couche, « quand il n'y aurait plus qu'un seul sujet fidèle en Angleterre. Je me battrai pour les droits de Richard avec le meilleur d'entre eux, et s'il le faut, deux contre un. »
Mais afin que vous, vous puissiez le faire, dit Rebecca en lui touchant l'épaule de sa main, il faut maintenant observer mes recommandations et rester tranquille.
C'est vrai, jeune fille, reprit Ivanhoé, et je resterai aussi tranquille que le permettront ces temps agités.
Et que savez-vous de Cédric et de sa famille?
Son intendant, répondit la juive, est venu il y a peu de temps, tout essoufflé, demander à mon père certaines sommes pour prix de la laine provenant de la tonte des troupeaux de Cédric, et j'ai appris de lui que Cédric et Athelstan de Königsbourg avaient quitté le palais du prince Jean profondément irrités et qu'ils étaient sur le point de retourner chez eux.
« Est-ce qu'une dame les accompagnait au banquet ?» demanda Wilfrid.
« Lady Rowena, dit Rebecca, répondant à la question avec plus de précision qu'elle n'avait été faite. Lady Rowena ne s'est pas rendue au banquet du prince, et d'après ce que l'intendant nous a dit, elle s'est remise en route pour Rotherwood avec son tuteur Cédric. Quant à votre fidèle écuyer Gert...
« Ah !» s'écria le chevalier. « Tu connais son nom ?»«
Ah, oh, mais oui !» ajouta-t-il sur le champ. « Tu le connais, et ce n'est pas étonnant, car c'est de ta main. Et j'en suis convaincu maintenant, de ta généreuse bonté qu'il a reçue sans sequin, pas plus tard qu'hier. »
« Ne parlons pas de cela, » dit Rebecca en rougissant beaucoup. « Je vois combien il est facile à la langue de trahir ce que le cœur veut cacher. »«
Mais c'est tort !» s'écria Ivanhoé gravement. « Mon honneur est intéressé à le rendre à votre père. »«
Il en sera ce que vous voudrez, » dit Rebecca, « quand 8 jours se seront écoulés. Mais ne parlez pas de cela maintenant, ni de rien qui puisse retarder votre guérison. »
Soit, aimable fille, reprit Ivanhoé, il y aurait de l'ingratitude à transgresser tes ordres. Mais un seul mot sur le sort du pauvre Gert, et je cesserai de te questionner.
Il m'est pénible de vous dire, sire chevalier, répondit la juive, qu'il a été arrêté par ordre de Cédric.
Et voyant le chagrin que cette révélation causait à Wilfrid, elle ajouta aussitôt, mais l'intendant Oswald m'a dit que si une nouvelle offense ne venait pas raviver le ressentiment de son maître contre lui, il était certain que Cédric pardonnerait à Gert, serf fidèle, qui jouissait d'une grande faveur et qui n'avait commis cette erreur que par l'amour qu'il portait au fils de Cédric. Il a dit en outre que lui et ses camarades, et notamment Wamba, le bouffon, était résolu à laisser Gert s'évader en route, dans le cas où la colère de Cédric contre lui ne se calmerait pas.
« Plaise à Dieu qu'ils persistent dans leur dessein !» s'écria Ivanhoé.
« Mais il semble que je sois destiné à porter malheur à tous ceux qui m'ont témoigné de l'affection. Je suis honoré et distingué par mon roi, et tu vois que celui de ses frères qui lui doit le plus lève la main pour saisir sa couronne. » Mon attachement a porté malheur à la plus accomplie des femmes, et maintenant mon père, dans un accès de colère, va tuer ce pauvre cerf pour le punir de son affection et de son dévouement à ma personne. Tu vois, jeune fille, à quel être infortuné tu prodigues des soins. Sois prudente, et laisse-moi partir avant que le malheur, qui s'attache à mes pas comme une meute acharnée, s'acharne également après toi.
« Non, » dit Rebecca. « Votre faiblesse et votre souffrance, sire chevalier, vous font méconnaître les intentions du ciel. Vous avez été rendu à votre pays au moment où il a le plus besoin du soutien d'un bras fort et d'un cœur honnête, et vous avez humilié l'orgueil de vos ennemis et de ceux de votre roi quand leur arrogance était à son comble. Et pour guérir vos blessures, ne voyez-vous pas que le ciel vous a envoyé une main secourable et habile dans l'art des pansements, quoiqu'il l'ait choisi parmi une race méprisée de tout le monde?
Or donc, ayez bon courage, et soyez convaincu que vous êtes conservé pour faire quelque miracle que votre bras accomplira devant tout ce peuple. Adieu. Et quand vous aurez pris la médecine que vous remettra Ruben, reposez en paix, afin d'être en état de supporter le voyage de demain. » Ivanhoé se laissa convaincre par les raisonnements de Rebecca et obéit à ses recommandations. La boisson que Ruben lui présenta possédait des propriétés sédatives et narcotiques. Elle procura au malade un sommeil profond et calme. Le lendemain matin, son charmant docteur le trouva complètement débarrassé de toute espèce de fièvre et en état de braver les fatigues d'un voyage. On le plaça dans la même litière qu'il avait ramenée du tournoi, et toutes les précautions furent prises pour qu'il voyageât commodément. Il n'y eut qu'un seul point sur lequel les supplications même de Rebecca ne purent obtenir les soins qu'exigeait la position du voyageur blessé. Isaac, comme le riche voyageur de la 10e satire de Juvénal, avait toujours devant les yeux la crainte d'être dépouillé, parce qu'il savait qu'il serait également considéré comme bon gibier, soit par le seigneur normand allant en maraude, soit par l'outlaw saxon. Il voyagea donc à grande journée, ne fit que de courtes haltes et des repas encore plus courts, de sorte qu'il dépassa Cédric et Athelstan, qu'il avait devancé de quelques heures, mais qui avait été retardé par le repas prolongé qu'ils avaient fait au couvent de Saint-Witold. Cependant, telle était la vertu du baume de Myriam, ou bien telle était la force de constitution d'Ivanhoé, qu'il n'éprouva de cette course précipitée aucun des inconvénients que son aimable médecin avait redouté. Un autre point de vue, toutefois, la précipitation du juif dans ce voyage fut plus excessive que sage. La rapidité avec laquelle il voulait voyager amena plusieurs querelles entre lui et l'escorte qu'il avait louée pour l'accompagner comme sauvegarde. Ces hommes étaient des Saxons, et ils n'étaient nullement exempts de cet amour traditionnel pour le bien-être et la bonne chère qui distingue leur nation. À l'opposé de la situation de Shylock, ils avaient accepté cet emploi dans l'espoir d'exploiter le juif opulent, et ils furent très vexés en se trouvant trompés dans leurs calculs par la rapidité que le juif voulut mettre dans son voyage. Ils se plaignirent aussi du risque que couraient leurs chevaux par suite de cette marche forcée. Enfin, il s'éleva entre Isaac et son escorte une dispute fort vive sur la quantité de vin et d'al qu'on devait allouer à chaque repas. Aussi, lorsque l'alarme fut donnée et que le danger qu'Isaac craignait tant fut sur le point de fondre sur lui, il se vit abandonné par les mercenaires mécontents, sur la protection desquels il avait compté, sans employer toutefois les moyens nécessaires pour s'assurer leur attachement. C'est dans cet état déplorable que le juif, sa fille et le malade blessé furent trouvés par Cédric, et ainsi que nous l'avons déjà raconté, qu'ils tombèrent bientôt après entre les mains de De Bracy et de ses confédérés. On ne fit d'abord que peu d'attention à la litière, et elle aurait pu être laissée sur le chemin sans la curiosité de De Bracy, qu'il examina, pensant qu'elle pouvait contenir l'objet de son expédition, car Lady Rowena avait gardé son voile. Mais l'étonnement de De Bracy fut au comble quand il s'aperçut que la litière renfermait un homme blessé, qui, s'imaginant être tombé au pouvoir des outlaws saxons, près desquels son nom serait une sauvegarde pour lui et ses amis, avoua franchement qu'il était Wilfrid d'Ivanhoé. Les idées d'honneur chevaleresque, qui n'abandonnait jamais entièrement De Bracy au milieu de ses dérèglements et de sa légèreté, l'empêchèrent de faire aucun mal au chevalier dans sa déplorable position, et lui interdirent également de divulguer ce secret à Front de Bœuf, qui n'aurait eu aucun scrupule de mettre à mort en toute occasion son rival, prétendant au fief d'Ivanhoé. D'un autre côté, mettre en liberté un prétendant préféré au cœur de Lady Rowena, ce que les événements du tournoi et l'exil de Wilfrid de la maison paternelle avaient rendu notoire, c'était là un effort de générosité au-dessus des forces de De Bracy. il ne sut trouver qu'un moyen terme entre le bien et le mal, et il ordonna à deux de ses écuyers de rester auprès de la litière et de ne permettre à personne de s'en approcher. Si on les questionnait, leur maître leur avait ordonné de dire que la litière appartenait à Lady Rowena et qu'elle était momentanément occupée par un de leurs camarades blessés dans l'escarmouche. En arrivant à Torquilstone, tandis que le chevalier du temple et le maître du château étaient absorbés chacun dans ses propres projets, l'un convoitant les trésors du juif et l'autre sa fille, les écuyers de De Bracy portèrent Ivanhoé, qui passait toujours pour un camarade blessé, dans un appartement écarté. Cette explication fut celle qu'ils donnèrent à Front de Bœuf lorsqu'il leur demanda pourquoi ils ne s'étaient pas rendus sur les créneaux au premier bruit d'alarme.
« Un camarade blessé » s'écria-t-il étonné et irrité.
« Il n'est pas étonnant que des manants et des yéomènes deviennent assez présomptueux pour assiéger nos châteaux, et que les paysans et les porchers envoient des cartels aux seigneurs, puisque des hommes d'armes sont devenus des gardes-malades, et que les francs compagnons se tiennent près du chevet de ceux qui meurent au moment où le château va être envahi. Au créneau, fainéants et vilains ! » s'écria-t-il en élevant sa voix de stentor, de manière à faire retentir les voûtes. « Au créneau, ou je vous briserai les os avec ce gourdin !» Les hommes répondirent en rechignant qu'ils ne demandaient pas mieux que d'aller au créneau, pourvu que Front de Bœuf voulût les excuser auprès de leur maître, qui leur avait commandé de soigner le moribond.
« Le moribond misérable !» ajouta le baron. « Je vous promets que nous serons tous moribonds si nous ne nous défendons pas courageusement jusqu'à la fin. » Mais je vais relever la garde de votre scélérat de camarade. Ici, Urfried, sorcière, démon saxon, ne m'entends-tu pas? Va soigner cet homme, alité, puisqu'il lui faut une nourrice, tandis que ces coquins se serviront de leurs armes. Voici des arbalètes, camarade, avec leurs vindas et leurs viretons. Montez à la barbacane, et ayez soin que chaque vireton s'enfonce dans la cervelle d'un saxon.
Les deux écuyers, comme la plupart des hommes de leur espèce, aimaient les hasards de la guerre et détestaient l'inaction. Ils se rendirent joyeusement à ce poste périlleux, ainsi qu'ils en avaient reçu l'ordre, de sorte que la garde d'Ivanhoé fut confiée à Urfried ou Ulrika. Mais celle-ci, dont la tête bouillonnait au souvenir des injures qu'elle avait subies et dont le cœur ne rêvait que vengeance, se laissa facilement persuader qu'elle ferait bien de céder à Rebecca le soin de son malade.